Le grand oral des grandes gueules.
Michel Barnier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous avez écrit le journal secret du Brexit chez Gallimard, La Grande Illusion. On en dira quelques mots tout à l'heure. Michel Barnier, que pensez-vous des annonces faites hier par le président Macron, à savoir, finalement, il veut faire peser les restrictions à venir sur les non-vaccinés? Est-ce que c'est la bonne méthode?
D'abord, est-ce que vous me permettez de dire un mot du sentiment que je rencontre, que je ressens dans notre pays après avoir visité beaucoup de régions depuis quelques semaines? La semaine dernière, j'étais chez vous, Monsieur Giraud, en Saône-et-Loire. Sentiment d'instabilité, d'insécurité, d'inquiétude générale. Et je vais répondre à votre question sur la vaccination et cette crise du Covid, mais tout de même, un mot de ce que je ressens des Français qui m'ont parlé. Samedi encore, ce drame épouvantable à clé de ce jeune Théo qui a 18 ans se fait assassiner pour 93 euros. Sentiment d'impunité téléphone qui se répand dans ce pays, d'une justice et d'une police qui devraient être concentrées sur la lutte contre cette insécurité, y compris la sécurité du quotidien. On le voit, j'étais dans le Val-de-Marne, à l'Île-et-Rose, il y a quelques jours, à Louhans, vendredi matin, et ce même sentiment se répand. Et je pense que l'émotion ne suffit pas. Je vais exprimer mon émotion à l'égard de la famille de ce jeune Théo, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut des réponses au niveau de l'État, de l'autorité de l'État, de la justice, de l'expulsion immédiate d'étrangers qui commettent des délits après qu'ils aient accompli leur peine de prison chez nous. Je pense que dans ce pays, il y a besoin de réaffirmer l'autorité. Et pourquoi je dis ça maintenant devant vous? C'est parce que ce sentiment qui m'a beaucoup frappé, il est aggravé sans doute par l'incertitude qui règne sur la gestion de cette crise du Covid. Moi, j'ai dit, avant que le président de la République ne parle hier soir, j'ai dit qu'il fallait aller vers la vaccination générale. Plus les gestes barrières, plus l'accompagnement insuffisant des personnes qui s'isolent parce qu'elles ont le Covid. Et personnellement, je l'ai eu, donc je peux rappeler la nécessité de s'isoler quand on est malade. Mais la vaccination générale, plus les gestes barrières, c'est le seul moyen de sortir durablement de cette crise sanitaire, économique, humaine et sociale. Voilà ce que je pense.
Mais vous comprenez encore la réticence, alors même si depuis les annonces d'Emmanuel Macron, on voit des Français qui s'inscrivent en masse sur Doctolib, près d'un million de Français déjà ont pris rendez-vous sur Doctolib depuis les annonces du président. C'est-à-dire qu'il faut le bâton et la carotte en France pour que les choses bougent?
Non, il faut prendre les décisions au bon moment. J'entendais sur l'antenne d'RMC ce matin le ministre, Monsieur Véran, expliquer que au rythme actuel, et ça ne date pas de hier matin, le virus Delta double tous les 5 jours. Donc ça veut dire que ces mesures-là, et la pédagogie qui doivent les accompagner, et la consultation qui manque, auraient pu être mises en œuvre il y a plusieurs semaines, et qu'on n'aurait pas eu ce sentiment de... En patois survoyard, on dit stop and go, d'aller et retour des jours heureux et des heures sombres. Je trouve qu'il y a dans la gestion de cette crise depuis maintenant un an et demi, beaucoup de un manque de consultation, pas assez d'anticipation, beaucoup d'approximation.
Ça vient d'en haut, ça tombe un peu comme ça du jour au lendemain.
J'écoute avec beaucoup d'attention toujours le chef de l'État, mais la manière où, sur fond de Tour Eiffel, de manière très solitaire et un peu péremptoire, il annonce ces mesures, pour tout vous dire. Je ne suis pas sûr que la chancelière allemande aurait annoncé les choses comme ça. Pourquoi n'y a-t-il pas eu une rencontre avec les maires, les présidents de départements, les présidents de régions? Pourquoi on ne consulte pas le secteur culturel? Je vais être à Avignon ce week-end. Le secteur culturel est très inquiet de l'application de ces mesures. Comment on peut annoncer des mesures sans être sûr qu'on puisse les appliquer?
Oui. Moi, j'ai les restaurateurs, par exemple, sont inquiets aussi.
Oui, mais mon passe Covid, là, que j'ai. Ouais. Comment on le contrôle si je vais boire une bière dans un bistrot? Est-ce que on a l'appareil pour le contrôler? Est-ce que les policiers vont vérifier? Qui va vérifier que c'est bien moi qui ai ce passe Covid? Je pense qu'il y a un manque de consultation préalable avec les secteurs.
Mais c'est la 5e République, on va vous dire. On a élu un prince.
Excusez-moi de vous dire.
Il gouverne. Il a tous les pouvoirs.
Certains de ceux qui nous écoutent savent que je me suis engagé très tôt derrière le général de Gaulle. Ça reste ma principale fierté, quand j'avais 15 ans, il était alors président de la République. Ce n'est pas vrai que le général de Gaulle dirigeait la France de manière aussi solitaire. Le général de Gaulle, il avait de très grands premiers ministres, M. Debré ou M. Pompidou, c'était peut-être pas une référence pour les jeunes qui nous écoutent, mais tout de même, il avait de grands ministres qui restaient là pendant 5 ans. Il faisait attention à son parti. Je pense que le Parlement était davantage consulté et respecté qu'il n'est aujourd'hui.
Alors, question, Marianne Soubry.
Justement, vous avez parlé d'un grand président à tous les sens du terme en parlant du général de Gaulle. On parle de vous, très concrètement, pour candidat à une primaire. Et on avait la semaine dernière Jean-François Copé, qui lui-même avait été candidat à la primaire de votre famille politique, qui disait qu'il ne croit pas du tout à cette idée de primaire. Donc vous, est-ce que vous êtes candidat à une primaire et est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution pour les Républicains?
Notre famille politique, les Républicains, à lesquels j'ai toujours été fidèle, et ça me permet aussi, en étant loyal, d'être libre de ma parole, est dans une situation paradoxale, parce que notre projet correspond à ce que souhaitent les Français aujourd'hui, dans tous les domaines, celui de la sécurité que j'ai évoqué, de l'immigration qui n'est pas bien maîtrisée, du retour de l'activité, notamment pour les artisans ou les petites entreprises. Nous avons beaucoup d'élus, le plus d'élus de tous les partis politiques, locaux, départementaux, régionaux. Nous avons... encore beaucoup de militants, et certains reviennent, heureusement. On a des personnalités qui ont une compétence, qui ont une expérience, des maires...
Peut-être trop pour la présidentielle, oui, parce que là, quand on voit les...
Évidemment.
Voilà.
Et on n'arrive pas pour l'instant à faire de toutes ces forces et de tous ces talents, on n'arrive pas à faire une force collective. Moi, je veux travailler à l'unité de ma famille. Je crois que les primaires ont laissé des traces et des blessures et qu'il faut faire attention. Donc si on peut éviter des primaires, je contribuerai à ce qu'on les évite. Et si je peux contribuer à l'unité de ma famille, à ce que cette équipe qui existe puisse désigner un chef d'équipe sans créer de blessures ou de polémiques, je participerai à ça. Mais maintenant, madame...
Et ça serait vous,
moi,
ou pas, alors, monsieur?
Pour moi, la question que vous posez est très grave. Est-ce que vous êtes candidat? C'est ce que vous me demandez,
oui,
à la
présidence
de la République. La réponse est également grave et ce n'est pas le moment ce matin pour moi. En ce moment,
d'accord,
les Français ont d'autres préoccupations.
Vous vous êtes mis quand même en mouvement.
Mais je serai présent dans ce rendez-vous parce que je suis un homme politique depuis toujours. J'ai toujours été élu par des citoyens et c'est une grande fierté pour moi et une grande exigence aussi.
Mais qu'est-ce que vous apportez de plus par rapport, comme le dit Marianne Soubry, il y a beaucoup de personnalités qui sont brillantes, qui ont des parcours. C'est quoi la Barnier Touch, si j'ose dire?
La Barnier Touch, oui, c'est encore du patois savoyard. La Barnier Touch, vous avez quelqu'un devant vous qui a été élu pendant 20 ans sur le terrain. J'ai présidé un département pendant 17 ans, où j'ai d'ailleurs, avec Jean-Claude Killy, organisé des Jeux Olympiques, les derniers Jeux que la France ait organisés. J'ai eu le grand honneur d'être ministre plusieurs fois, dans des ministères difficiles, notamment le ministère de l'Agriculture et de la Pêche, mais aussi les Affaires étrangères. Et puis, je crois être un des rares hommes politiques à avoir consacré un temps à peu près égal à l'engagement européen, à l'influence de la France, à la gestion de dossiers difficiles comme la crise financière et récemment le Brexit. Est-ce que c'est à moi de dire tout ça? Vous me posez la question, je vous réponds. Mais voilà, j'ai peut-être aussi une expérience.
Donc, l'expérience, le parcours.
Nous verrons comment, mais je pense que ce que je suis et ce que j'ai fait peut être utile, notamment pour rassurer, remettre du calme, remettre du respect dans le débat politique français et de l'action aussi.
Gilles-William Grenadel.
Je vous sais gré, Michel Barnier, d'avoir rendu hommage au jeune Théo, 18 ans, qui a été tué par un migrant étranger, ce qui est occulté très largement par les médias. Vous avez fait allusion au général de Gaulle. Je ne suis pas sûr, s'agissant précisément de la maîtrise de nos frontières, je ne suis pas sûr que le général de Gaulle aurait été aussi européen que vous. Comment vous situez, par rapport au problème que vous savez maintenant discerner, par rapport à votre vision européenne que d'aucuns trouveraient un peu européiste?
Non, je ne suis pas européiste, je ne suis pas fédéraliste. Moi, je suis gaulliste et je pense que l'intérêt national, qui est notre vocation, c'est notre raison d'agir en politique, l'intérêt national, la souveraineté nationale, dans certains domaines, pas dans tous, et peut-être dans moins de domaines, exige une coopération avec les autres, ce que j'appelle des souverainetés nationales solidaires. Et ceux qui nous écoutent, moi je pense que le peuple est intelligent, je pense que les gens sont intelligents, et je vais dire ce que je vais dire maintenant, je l'ai dit l'autre jour en Saône-et-Loire devant 400 personnes. Quand vous regardez le monde tel qu'il est, tel qu'il vient devant nous, qui est un monde dangereux, instable, Vous voyez de grandes puissances, la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Inde, le Brésil, qui n'ont besoin de personne. Vous voyez de grandes sociétés, Google, Facebook et d'autres, qui sont tellement puissants. Vous voyez des mouvements de services financiers gigantesques au-dessus de nos têtes. Comment on se protège contre tout ça? Comment on maintient nos intérêts, défend nos valeurs? Si on est tout seul, on est foutu. Voilà ce que je pense. Dans certains domaines, si on est tout seul, on est foutu.
Mais ça fonctionne bien l'Europe en ce moment, vous trouvez?
Et je pense que De Gaulle, dont vous parlez, cher maître, De Gaulle, aujourd'hui, ferait bien sûr des discours sur l'indépendance nationale, mais aussi sur l'indépendance de l'Europe. Si on n'est pas ensemble, on devient sous-traitant et sous influence des Chinois et des Américains. Et moi, je ne me suis pas engagé en politique pour que mon pays soit sous-traitant et sous influence.
Didier Giraud. Du coup, j'ai une question moi, là-dessus, et j'en fais appel à votre expertise européenne. La crise qu'on vient de passer, je crois qu'elle
est toujours là.
Oui, mais enfin, il y a des choses qui sont derrière nous. En ce qui me concerne, je suis inquiet sur la souveraineté alimentaire. Et j'aimerais savoir qui doit garantir cette souveraineté. Est-ce que c'est l'Europe ou est-ce que c'est les États-nations? À un moment donné, chacun met sa petite touche. Et moi, je sens pas de cohérence dans la politique européenne, entre autres par rapport aux accords de l'OMC, par rapport aux accords de libre-échange. On sait bien qu'il y a des pays dans l'Europe qui sont plus libéralistes que nous, et j'ai du mal à voir la cohérence européenne dans ce qu'est, à mon avis, un enjeu majeur par rapport au monde si sauvage qui nous arrive dessus, qu'est la souveraineté alimentaire, quoi.
La souveraineté alimentaire pour nous, Monsieur Giraud, mais aussi pour le monde, avec 9 milliards d'habitants qu'il va falloir nourrir. Et ma réponse est claire, la politique agricole est aujourd'hui, et heureusement, une politique commune. Il faut la préserver, éviter toute forme de renationalisation, ça c'est le chacun pour soi. Et cette politique doit viser la souveraineté alimentaire et un modèle alimentaire que nous défendons. C'est pour ça que je vais expliquer que les aides agricoles, c'est pas de l'assistance, c'est un contrat qu'on passe, nous, la société, les gouvernements, avec les paysans qui remplissent ce contrat de nous apporter de la nourriture saine, traçable, diverse, de qualité, ce qui n'est pas le cas de tous les pays du monde où souvent la nourriture est aseptisée et puis qui entretiennent les territoires. Et ça, ça n'a pas de prix. En tout cas, c'est un prix, ça aurait un prix supérieur à celui de la PAC. La question, donc, pour moi, est claire. La souveraineté doit être garantie avec l'influence française au niveau de la politique européenne. C'est une autre question que celle de la naïveté dont on fait preuve depuis trop longtemps au niveau de nos échanges commerciaux, de l'absence de réciprocité. J'ajoute un mot à propos des agriculteurs, le fait que les directives européennes, notamment sur certaines règles environnementales, ne sont pas appliquées chez nous comme elles le sont à côté de chez nous.
Vous avez parlé de Théo, vous avez dit qu'il faut plus de justice, d'autorité, d'action policière, mais concrètement, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre système, justement? Lorsqu'on interroge les policiers, ils disent c'est la faute de la justice, elle est trop laxiste, nous on arrête les gens, mais la justice elle libère. Est-ce que c'est aussi simple que ça?
Il n'y a pas une seule réponse simple à votre question, mais d'abord, il faut que la gendarmerie en zone rurale, la police en zone urbaine, les polices, la police d'État et la police municipale se concentrent ou soient invités à se concentrer sur la tâche que je viens d'évoquer, qui est l'insécurité en général, les graves insécurités et puis l'insécurité du quotidien. Et aujourd'hui, ils ont trop de choses à faire, donc il faut le concentrer. Il faut plus de moyens, des commissariats et des gendarmeries qui fonctionnent et qui soient modernes, avec des fichiers interconnectés. Il faut une réponse pénale qui s'applique, il faut plus de juges, pour qu'il y ait moins de délais et que les peines ne soient pas toujours des peines de substitution, que les peines soient appliquées, que les expulsions soient effectuées, que les prisons... Écoutez, on a 20 000 places de prison de moins que l'Angleterre, qui a moins d'habitants que nous. Je ne dis pas des prisons qui soient toutes faites pour des grands délinquants, il y a différentes formes de prisons, mais nous devons construire, je pense, 25 à 30 000 places de prison dans les 5 ans qui viennent, et c'est possible.
Mais sur le plan économique, qu'est-ce qui vous distingue finalement de l'équipe en place? D'ailleurs, une bonne partie de vos amis sont aux manettes, hein, Jean Castex, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, et j'en oublie Bruno Le Maire. Bon, Michel Barnier, qu'est-ce qui ferait de différent sur le plan économique et social? On pouvait même imaginer que vous auriez pu être un ministre d'Emmanuel Macron ou un premier ministre d'Emmanuel Macron.
Méfiez-vous de votre imagination.
Hein. Oui, elle n'est pas débordante, là, je ne vais pas très très loin.
Si, je sais qu'elle est abondante, mais méfiez-vous de votre imagination. Moi, je suis dans cette famille et fier d'y être, avec ma liberté de parole. Si vous me demandez ce qui me distinguerait de l'exécutif sortant actuel, c'est à coup sûr une réponse en matière d'immigration plus rigoureuse et plus juste et plus forte. C'est une confiance qui n'a pas été faite, nous en avons tous la preuve, notamment dans la crise du Covid, aux élus locaux, départementaux, régionaux, aux maires qui ont un rôle majeur. Et puis un exercice du pouvoir qui est trop solitaire et parfois arrogant. Maintenant, quand il y a des choses positives qui sont faites pour gérer la crise aux côtés des restaurateurs ou des entreprises, c'est bien et on continuera à apporter ce soutien, si vous me permettez de le dire, au-delà du rattrapage que l'on constate, et c'est bien que ce rattrapage ait lieu, en investissant davantage dans les secteurs industriels et agricoles, en libérant aussi les entreprises d'un certain nombre d'impôts qui les mettent en situation de compétition injuste avec nos voisins, notamment les impôts de production. Je pense aussi qu'il y a des mesures, plutôt que de l'assistanat, pour que les gens soient encouragés, récompensés quand ils travaillent, plutôt que d'être encouragés à ne pas travailler.
La réforme des retraites, alors pas tout de suite, dit Emmanuel Macron, il y a une crise sanitaire à régler, mais il veut une réforme des retraites basée sur le fait de travailler plus et la suppression des régimes spéciaux.
Les Français sont capables d'entendre un discours de courage politique et de raison. Maintenant, est-ce que c'est le moment ? Cette réforme a été ratée. C'était avant la crise du Covid, elle a été ratée. On a bâti une sorte d'usine à gaz à laquelle personne n'a rien compris. Donc, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est pas des paroles, c'est des actes.
C'est quoi la bonne réforme des retraites? Parce que là, tout le monde a son idée, et c'est pas simple, hein, quel que soit le gouvernement.
Non, c'est pas simple, ça exige une concertation, sans doute une mesure d'âge, un traitement des régimes particuliers, mais le moment aujourd'hui n'est pas celui des postures et des paroles, c'est celui des actes, et je pense que ce débat maintenant, au point où on en est, puisque cette réforme a été ratée par l'exécutif actuel, le moment sera de la trancher à l'occasion de l'élection présidentielle. Les Français devront se prononcer sur cette question, mais je pense qu'il faudra dire la vérité dans ce domaine comme dans d'autres Français.
J'avais une question sur votre parcours Brexit. Et est-ce que ça
renvoie d'ailleurs au livre, hein, que
voilà,
vous avez signé,
sur le livre, effectivement.
Je vous remercie de lire d'ailleurs. C'est un livre qui est un journal en fait que j'ai écrit tous les jours pendant 4 ans.
Voilà. Et est-ce que ça a renforcé? Alors évidemment, je pense que la réponse est dans la question. Ça a renforcé, j'imagine, vos convictions européennes qui sont chevillées au corps. Mais quelles leçons vous en tirez
en fait? J'ai des sentiments qui ont été corrigés depuis. Parce que qu'est-ce qui explique le Brexit ? Pourquoi les Britanniques, 52%, ont dit non à l'Europe, non à Bruxelles ? Il y a bien sûr des raisons britanniques, des nationalistes, des souverainistes, des nostalgiques. On a aussi la nostalgie n'est pas bonne conseillère en politique. Il y a aussi des gens qui font moins de philanthropie dans les marchés financiers. Mais tous ces gens, les élites au sommet à Londres, ont utilisé la colère sociale qui existe dans beaucoup de régions. Ça j'ai compris ça. Et pourquoi je l'ai compris, pourquoi ça m'interpelle, c'est parce que cette même colère, elle existe. On parlait des gilets jaunes au début de la crise des gilets jaunes. Cette colère sociale, c'est la même, le sentiment d'être abandonné, de ne pas être protégé, qu'il n'y ait plus d'industrie. Notre pays a abandonné son industrie en grande partie. Les Anglais aussi. Voilà ce que ça m'a appris. Pas les Allemands, pas les Italiens, pas les Suédois. Et personne ne nous a obligés à Bruxelles à abandonner notre industrie. Donc, il y a des leçons à tirer. Le Brexit, c'était improbable, mais il s'est produit. Donc il faut se méfier des situations improbables qui peuvent se produire chez nous, et donc il faut répondre à ce sentiment de populaire qu'il ne faut pas confondre avec le populisme. Le sentiment populaire, il faut l'écouter et le comprendre.
On n'y a jamais répondu parce que il y a eu quand même un péché originel. C'est on n'a pas respecté le choix des Français en 2005. Quand les Français en 2005 ont dit non au traité constitutionnel, alors ensuite on a fait passer cette réforme via le Parlement, Nicolas Sarkozy, le traité de Lisbonne. Bref, mais il y a eu ce péché originel. Est-ce que depuis justement il n'y a pas cette fracture entre une bonne partie des Français et cette Europe qui a continué à avancer?
C'est pas la seule raison. Le fait qu'il y ait eu qu'on ait, avec le traité de Lisbonne, repris une partie, un tiers du traité constitutionnel, celui qui était le moins contesté, pour qu'il soit utile. Je reconnais le sentiment, parce que je l'entends souvent, les gens me disent, mais on a voté contre en 2005.
Nous, on l'entend souvent chez nos auditeurs.
Non, je comprends ça, et je pense qu'il faudrait éviter ce genre d'attitude à l'avenir. Mais la colère, ou le sentiment populaire, ou l'hostilité à Bruxelles remonte à d'autres choses, hein, à des erreurs fondamentales de Bruxelles, notamment avec une vague d'ultralibéralisme. Moi, je suis libéral, hein, mais je ne confonds pas l'ultralibéralisme, que les banquiers se soient cru tout permis pendant 40 ans parce qu'on leur a tout permis. Des produits toxiques, des bonus incroyables, ça, ça doit être corrigé. Et j'ai commencé à le corriger quand j'étais commissaire au service financier, en présentant 41 lois de régulation financière, 41 lois. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de banquiers qui trouvent que ça fait beaucoup. On corrige avec davantage de réciprocité dans nos échanges commerciaux, Monsieur Giraud. On corrige en ayant enfin le courage de prononcer le mot de politique industrielle, qui était un gros mot. Et moi aussi, je pense que l'identité nationale n'est pas un gros mot. Donc je pense qu'il y a des choses qui corrigent et qui permettent de prendre en compte ce sentiment populaire, mais il y a des réponses aussi ailleurs qu'à Bruxelles. Toutes les réponses ne sont pas à Bruxelles, il y a des réponses à Paris. L'ambition industrielle, l'ambition agricole, ça c'est pas Bruxelles, c'est nous. Et puis il y a des réponses locales, les transports publics, les services de santé, c'est au niveau des départements ou des régions.
Michel Barnier, il aura, j'imagine, l'occasion de développer toutes ses idées dans les semaines et les mois à venir. Merci d'être venu dans Les Grandes Gueules. Je redonne le titre de votre livre chez Gallimard, La Grande Illusion, journal secret du Brexit 2016-2020.
C'est un peu drôle quand on a mon âge de repasser un grand oral. Ça vous ramène
on passe l'oral toute sa vie, on passe le bac toute sa vie.